Mais chez Nichnas, Adar, Marbin, Besimcha. Dès le début du mois de Adar, eh bien, on doit commencer à se réjouir que la fête de Purim arrive, qu'on va de nouveau revivre cette influence divine que Hachem a donnée à nos ancêtres à Purim, eh bien, on va la vivre encore une fois. Top. Alors, les Maaseh, d'abord, on va expliquer une petite notion pour le mois de Adar en général. Bien que la fête de Purim, c'est-à-dire qu'une seule journée, n'est-ce pas, un seul jour, 24 heures, pas comme Sukkot ou Hanukkah, c'est 8 jours, mais c'est un seul jour. Bon, le Maaseh, c'est-à-dire que dans certains endroits, c'est le 14 ou alors c'est le 15. Bon, ici à Ramot, comme on a un doute, on fait même deux jours ici. On a aussi Tanit Esther, le jeûne d'Esther, donc ça nous fait, parce qu'une une troisième journée, qu'on avait dit le dernier cours, que le jeûne d'Esther, bien que c'est un jeûne, mais c'est un moment qui est très propice à la tfila. Je le répète encore, c'est un jour, une journée qui est très propice à la tfila. C'est écrit dans Kavayasha que celui qui a une bakasha, une demande spéciale à exprimer, eh bien, qu'il prenne son temps l'après-midi, spécifiquement dans l'après-midi, de Tanit Esther, lorsqu'on est déjà affaibli avec le jeûne, juste avant Mincha ou après Mincha, et de se mettre à prier, de lire Tehilim, notamment le Tehilim, le chapitre numéro 22, qui en effet parle de Esther à Malka, de façon en allusion, et ensuite relater le sroute, le mérite de Mordechai et Esther, et faire sa bakasha, sa demande spéciale. Top. Cette année, alors bon, c'est le 13 Adar, c'est le Shabbat, donc le jeûne est avancé le jeudi. Bien sûr, ça fait le jeudi. Mais bon, mais cependant, c'est aussi important à savoir, c'est que du 11, là, du 11 au 15 Adar, ce sont des journées très spéciales. Pourquoi ? La première Mishnah dans Maseret Megillah nous dit que la Megillah, on peut la lire le 11, le 12, 13, 14 ou 15 Adar. Bien qu'on la lit dans la plupart du monde, le 14 Adar, à Jérusalem et les villes qui sont entourées de murailles du temps de Yoshua ben Nun, on la lit le 15 Adar. Mais cependant, en cas de force majeure, lorsqu'on n'a pas le choix, on pourrait la lire éventuellement le 11, le 12 ou le 13. Avec bracha, il me semble que oui, avec bracha. Mais c'est uniquement un cas de force majeure, quelqu'un qui n'aura pas de Megillah le 14 ou le 15. Je ne suis pas sûr, il faut vérifier. Donc, le Maaseh, il y a même Inshtan Arushalmi qui dit plus que ça, qu'on peut lire la Megillah pendant tout le mois de Hadar. Alors là, à l'Alakha, on ne tient pas ça comme cela, mais ça veut dire aussi que pendant tout le mois de Hadar, il y a une certaine influence divine qui a été donnée, dégagée par le miracle que Hachem a fait au Béni Israël. D'ailleurs, dans la Megillah aussi, on dit « Va Chodesh, Hachem ne parle à Hem, mais Vel Yom Tov », c'est-à-dire qu'Hachem, il a transformé ce mois d'un deuil en une joie. C'est-à-dire que le mois en entier, il a été transformé. Et c'est pourquoi on dit Meshinichnas Adar, Marbim Besimcha. Et d'ailleurs, Rabbi Tzadok nous dit ce ma'amar-là qu'on doit commencer à être joyeux dès le début de Adar. Dans la Gemara, c'est Rabbi Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shilat qui l'a dit. Rabbi Yehuda, le fils de Rav Shmuel, fils de Shilat qui l'a dit. Nous dit Rabbi Tzadok que cet homme-là, Rabbi Yehuda, c'était un des descendants de Haman, imaginez-vous. Pas la Gemara dit, mi bnei banav shel Haman, lam du Torah bi bnei Brak. En effet, Haman a eu, on peut dire, ce mérite que certains de ses descendants ont étudié la Torah à bnei Brak. Gemara Sanhedrin, daf tzadi vav. Et un de ses descendants, c'était un des grands Amoraïm qui sont cités dans le Talmud, qui s'appelait Rabbi Yehuda, fils de Shmuel, fils de Shilat. Je vous rappelle que dans le Talmud Bavli, ceux qui ont eu le privilège d'être mentionnés dans la Gemara, le Talmud, ce sont des personnages très spéciaux. C'est-à-dire, il y avait beaucoup d'Amoraïm, mais pas tous ont eu le mérite d'être mentionnés dans le Talmud. C'est écrit que tout celui qui est mentionné dans la Gemara, eh bien, il avait cette force de pouvoir ressusciter un homme mort. Uniquement lorsqu'il avait une telle faculté, une telle envergure spirituelle, eh bien, il était mentionné dans la Gemara. Alors, un des descendants de Haman, ce Rav Yehuda, eh bien, c'est lui qui a dit ce Mahamar, Mishenichnas Adar Marbin Besimcha. Et Rabbi Tzadok explique, puisqu'en effet, puisqu'il était un de ses descendants, donc il arrivait plus facilement à. Donc, il avait peut-être un rapport avec Haman, et donc il a compris réellement ce que Haman voulait. C'est-à-dire que Haman, lui en effet, il voulait a priori amener une malédiction sur Am Israël pendant tout le mois de Hadar. C'est écrit auparavant que Hachem, il a divisé l'année en deux parties. Il a donné 6 mois à Yaakov et 6 mois à Esav. Eh bien, Esav, il a eu les mois de Tevet, Shvat et Adar, ainsi que Tammuz, Av, Elul. Le mois de Elul a été transformé par les 40 jours que Moshe Rabbeinu il a fait au ciel en train de prier. Et donc, ce mois est passé de Esav à Yaakov. Par aussi le mois de Adar, qui a priori appartenait à Esav. Et Saraman le savait. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, il a voulu faire, c'est une des raisons qu'il a voulu créer le mois de Hadar. Mais une fois que ça a échoué, eh bien, ce mois de Hadar a été transformé en un jour de joie, un jour de chesed et de rachamim. Et ça, un de ses descendants le savait, c'est pourquoi il nous a enseigné « Mishinichnas Hadar Marbin Besimcha ». C'est-à-dire que pendant tout le mois de Hadar, il y a cette hachpa, cette influence de Purim qui se propage, et donc on doit se préparer à Purim au moins à partir du premier Hadar. Donc, alors, à ceci, on va dire encore quelques mots. On va prendre un exemple. Lorsque quelqu'un veut se marier, alors bon, le mariage, c'est un grand jour. Bah, c'est une seule fois dans la vie, on espère en tout cas que c'est une seule fois dans la vie. Et on fait des préparations pendant des mois et des mois. Il y en a qui même font pendant des années. Bon, c'est un peu trop exagéré. Mais on se prépare pendant des mois. Pourquoi un seul jour? Et en fait, c'est quelques heures. Mais c'est même pas 24 heures, c'est quelques heures. Alors bon, tant de temps, tant d'énergie, tant d'argent dépensé, pour quelques heures. Quel sens ça a? Est-ce que ça aurait pas été faible d'investir son temps et son argent autrement? Eh bien non. Pourquoi? Parce que tout le monde, c'est pas uniquement de faire une fête, etc. Bon, il est vrai que c'est aussi un symbole, c'est une joie, c'est un bonheur, mais c'est bien plus que cela. C'est que le jour, les heures du mariage, eh bien, c'est le point de départ. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous donner comme une certaine poussée pour toute la vie entière, pas la vie de couple. C'est-à-dire que, comme on dit, comme dans une course, le départ est très important. Quand tu prends un bon départ, eh bien, tu es bien dans la course et tu as plus de chances de réussir dans ta course. Quand tu prépares aussi un examen, le départ est toujours important. Par aussi dans la vie du mariage, eh bien, le départ, c'est toujours important. Et bien souvent, on peut prendre de ce départ-là, de ces quelques heures, une certaine ferveur effervescente, une certaine joie, un bonheur, qui va nous accompagner toute notre vie. Non seulement c'est une poussée importante, mais chaque fois qu'on va se rappeler, se souvenir de ces heures extraordinaires, eh bien, ça va nous donner encore plus de tonus d'entrain pour pouvoir surmonter les difficultés de la vie. C'est-à-dire que on le fait exprès a priori de prendre un bon départ extraordinaire, de faire une fête du tonnerre vraiment extraordinaire pour pouvoir être encouragé, soutenu toute la vie grâce à cela. Ça, c'est un machal. Alors, c'est pareil aussi pour les fêtes dans Israël, que ce soit Purim ou alors Shavuot ou alors Pessah, Sukkot. Eh bien, on doit se préparer pendant quelques semaines à l'avance. Bien qu'en fait, ça va durer que quelques heures, quelques journées, parce qu'en effet, cette fête, elle va nous donner un certain entrain, un certain courage, une certaine poussée pour toute l'année à venir. Quand on avait ramené aussi le machal dans un des derniers cours, que c'est écrit que chaque fête, chaque journée, ça s'appelle Shiur Koma. C'est-à-dire, c'est une... qu'on va traduire Shiur Koma. C'est une posture, une stature bien spécifique, bien spéciale, qui va nous donner une certaine colonne vertébrale, on va dire, une certaine stature, une posture, une certaine solidité pour toute l'année à venir. Comme dans notre corps humain, eh bien, on sait bien qu'il y a des organes qui sont plus vitaux, plus importants que d'autres. On sait bien que le cœur et la tête, eh bien, c'est des organes vitaux, c'est très important. Alors les doigts aussi c'est important, mais évidemment c'est moins important. Pas aussi dans l'année. Chaque jour, chaque instant, c'est hyper important, extraordinaire. Tu peux réaliser des choses extraordinaires dans ta vie, vraiment à chaque seconde. Mais cependant, il y a des journées plus importantes qui sont les fêtes de l'année. Tout d'abord, c'est Shabbat. Ensuite, c'est Rosh Hashanah, Kippour, Pessah, Shavuot, Sukkot, Hanouka, Purim, Rosh Chodesh aussi, Tu Bishvat, on a expliqué, Tu Be'av. Là, on a les fêtes, Elimi Fête, Lag Ba'Omer. Toutes ces fêtes, ce sont des organes, des journées qui sont vitales pour toute l'année à venir. Et c'est pourquoi il nous convient de nous préparer, parce que bien que la fête, elle va durer que quelques jours, quelques heures, cependant, c'est cette fête qui va pouvoir te donner un niveau spirituel qui va t'aider à surmonter certaines épreuves de l'année. Comme certaines personnes peuvent raconter que grâce au Kippour précédent qu'ils ont passé, eh bien, leur année, elle a été transformée. Kippour, il a fait une tchouva extraordinaire, ou alors même si c'est un Kippour ordinaire, mais il sent que ce Rosh Hashanah, ce Kippour, ça va le maintenir pendant quelques mois, ou alors au moins pendant quelques semaines. Eh bien, bon, on est conscient de cela pour Rosh Hashanah et Kippour, évidemment, mais on n'est pas assez conscient de cela pour les fêtes comme Purim. Et ça aussi, il faut le savoir, parce que Purim, comme on l'a dit dans les derniers cours, c'est Kippourim, Kippourim, c'est une journée qui est plus importante dans son niveau spirituel que la fête, que la journée de Kippour. Alors, on n'a pas l'impression de cela, mais il faut le savoir, il faut être conscient et il faut agir en conséquence. Alors, encore quelques mots là-dessus. Le Arizal nous dit que la fête de Purim, il y a des influences divines, spirituelles, qui sont données, dégagées, qu'il n'y a aucune autre journée de l'année, ni Shabbat et Yom Tov. C'est-à-dire que c'est une journée bien spéciale, que Hachem y donne même certaines influences spirituelles qu'on ne peut jamais retrouver toute l'année. Je rappelle encore ce qu'on avait dit au dernier cours, ce que dit le Maor Vachemesh, au nom du Arizal aussi, que le jour de Shabbat. Alors le Shabbat, sachez tout d'abord que le Shabbat, c'est la journée la plus importante de l'année. Comme on le dit tous les Shabbats soir, vendredi soir, on dit « Uberarto mikol hayamim, vekidashto mikol hazemanim ». C'est-à-dire que, on dit à Hachem, tu as béni le Shabbat plus que toutes les journées de l'année, et tu l'as sanctifié bien plus que toutes les fêtes de l'année. On a l'impression que Rosh Hashanah et Kippour, c'est plus important, c'est plus sanctifié. C'est une erreur. Le Shabbat, c'est la journée qui est la plus sanctifiée et la plus bénie. Cependant, il est vrai qu'il y a, n'est-ce pas, certaines notions spirituelles différentes qu'on peut retrouver dans certaines fêtes qu'on ne retrouve pas Shabbat, qu'on va expliquer par aussi pour Pourim. Mais, de façon générale, dans son niveau, le Shabbat est plus sanctifié et plus béni que toutes les journées de l'année. Et d'ailleurs, entre parenthèses, à cela dit le Chafetz Chaim, quand on cherche la bracha, quelqu'un, il cherche la réussite dans la vie, la réussite dans les affaires, dans la famille, dans la santé. De nos jours, qui n'a pas besoin de bracha de réussite? Tu veux la réussite? Eh bien, c'est le Shabbat. Le respect du Shabbat, la joie dans le Shabbat, kvot Shabbat, onek Shabbat, ça t'amène la réussite. Comme on dit tous les sortes dans le Chadodi, l'ikrat Shabbat, l'echouven elcha, ki mekor abracha. On va aller à l'encontre du Shabbat, parce que le Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Mekor abracha. Toute la bénédiction, elle provient du Shabbat. Alors vous me direz, bon, je fais Shabbat et je ne vois pas la bracha. Où est-ce qu'elle est?
Il y a plein, les familles qui n'ont pas d'argent. Non, c'est plus...
Bon. Alors tout d'abord, Eliaou, sache tout d'abord que vraiment, réaliser Shabbat comme il faut à 100%, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Chacun à son niveau. Chacun son niveau. Je veux dire, l'essentiel est la chose suivante. D'abord, dit la Mishnah, nous dit que le Shabbat, les halakhot de Shabbat, ce sont des montagnes qui dépendent du fil d'un cheveu. C'est-à-dire que ce sont des halakhot qui sont vraiment gigantesques, très importantes, et qui ne sont pas faciles à réaliser, à accomplir, pas faciles à comprendre, et on peut se tromper, même si on se trompe, comme une erreur qui est épaisse, comme le fil d'un cheveu, eh bien, ça peut être fatal. C'est pourquoi c'est très important de connaître, d'étudier les halakhot Shabbat. Mis à part cela, on avait dit plusieurs fois, c'est que Shabbat, il y a le respect des halakhot, il y a aussi zachor, n'est-ce pas, le kiddush comme il faut, besimchat, sur le vin. On a aussi kavod et oneg, respecter, honorer le Shabbat, et ensuite, n'est-ce pas, prendre plaisir du Shabbat. Maintenant, ce qu'il y a chacun son niveau, c'est que dans le Shabbat, il y a des milliers de niveaux différents. Et même des grands tzadikim disaient que respecter le Shabbat à 100%, c'est très difficile. C'est très difficile. Le Rav Kanevski, le Stepler, a dit une fois, je ne peux pas affirmer que je respecte le Shabbat à 100%, tellement c'est difficile. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, on nous demande une chose. C'est ne pas stagner et surtout ne pas régresser. C'est-à-dire que, par rapport au Shabbat, on te dit que c'est très difficile. Et c'est un monde gigantesque en soi, c'est un monde spirituel. Mais ce qu'on te demande de faire, c'est d'avancer. Le Shabbat, c'est une échelle spirituelle qui est plantée au sol et qui va jusqu'au ciel. Est-ce que tu montes sur cette échelle, ou alors tu es stagnant, ou alors tu descends de l'échelle? Et ça, ce qui est important, c'est qu'il faut essayer d'agir pour que, de Shabbat en Shabbat, de mois en mois, d'année en année, ton Shabbat, il est différent. Ton Shabbat, il est transformé. Tu t'investis dans les halakhot du Shabbat. Tu t'investis dans la compréhension. Qu'est-ce que Hachem nous demande Shabbat? Pourquoi est-ce que Hachem interdit tellement de choses? C'est quoi le kavod? C'est quoi le oneg? C'est quoi zachot? C'est quoi shamor? On peut l'étudier pendant 10 ans, le Shabbat du matin au soir, et je vous garantis, on finira pas. L'essentiel, c'est d'avancer. Si on fait, machin krayim osim esek ma Shabbat, si on accorde de l'importance au Shabbat, c'est ce qu'on dit dans le Chadodi, l'ikrat Shabbat, l'echouvenelcha, c'est quoi aller à l'encontre du Shabbat? C'est considérer que c'est une fête gigantesque, un monde spirituel en soi, et je dois essayer de comprendre, de savoir, d'y accéder le maximum possible. Automatiquement, je rabbe l'cha. Mais si on fait le Shabbat de façon routine habituelle, chacun selon son habitude depuis l'âge de 5 ans ou de 10 ans, alors il y en a qui font plus, il y en a qui font moins, etc. On reste au même niveau, ou des fois même pire, à cause de l'influence générale du monde moderne, etc. Alors notre Shabbat, il va être un peu affecté, un peu transformé, alors c'est sûr qu'on peut pas avoir la bracha. La bracha du Shabbat, c'est uniquement si on avance dans le Shabbat. Ça, c'est pour le Shabbat. Alors, le Mor Vachemesh nous dit que le Shabbat, mis à part les halakhot, etc., eh bien, il y a une influence divine que Hachem nous donne pendant tout le Shabbat, qu'on ne retrouve pas toute la semaine, puisqu'en effet, c'est un jour qui est très sanctifié. Maintenant, le Shabbat matin, quand on accède à la Tfila 2, on commence Shachrit, Kirat HaTorah, Haftara et Moussaf. Lorsqu'on arrive à Moussaf, c'est vraiment un des points les plus élevés du Shabbat, eh bien, il y a une influence divine qui nous est donnée du ciel, qu'on ne peut pas comprendre et saisir. Bon, c'est des notions mystiques de Kabbale, mais juste savoir qu'on s'élève encore plus spirituellement. Et ajoute le Mor Vachemesh, ça c'est dans la tfila de Moussaf en général. Lorsqu'on arrive à Keter, dans la Gdusha de Keter c'est une couronne, c'est-à-dire que Hachem, comme il nous donne une couronne spirituelle, et comme Kaviachol, comme si nous on va avec les Malachim, les anges, on va comme donner une couronne, pas à Hachem, lorsqu'on va proclamer sa Gdusha, sa grandeur, etc. Eh bien, pendant cette Gdusha de Keter, on s'élève encore plus, Hachem nous donne un surplus d'influence divine et spirituelle. Mais ça, n'est-ce pas, c'est dégagé uniquement pendant ces quelques instants dans lesquels on dit la Gdusha de Keter de Moussaf, surtout lorsqu'on dit le mot de Aïe. Et dit le Mor Vachemesh, eh bien, cette influence divine spirituelle, elle nous est donnée, dégagée, le jour de Pourim, pendant toute la journée. Ce qu'on peut bénéficier pendant Shabbat, quelques instants, pendant Pourim, ça dure exactement 24 heures. On peut bénéficier de cela, pas c'est écrit dans Mor Vachemesh, Parashat Mishpatim, ainsi que l'Ikutei Pourim, au nom du Arizal. Bon, non, on ne sait pas ce que c'est, mais juste savoir que Pourim, c'est une grande journée. Top. Comment on fait pour accéder à tout ça? Il faut savoir, il y a une règle générale, en général, dans la Torah et dans le judaïsme. C'est qu'on a affaire à des choses qui sont gigantesques. Et on ne sait pas toujours comment ça marche. Mais, on ne sait pas pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Et comment ça marche exactement. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que ça marche. Et quelles sont les directives à suivre pour que ça marche. Si tu vas chez un médecin, il te prescrit une ordonnance, il te donne un médicament. Alors, bon, tu ne peux pas comprendre comment ça marche, mais tu lui fais confiance et tu prends les médicaments selon, n'est-ce pas, ce qu'il t'a demandé de prendre, tel comprimé, à telle heure, etc. Si on suit les directives, eh bien, ça marche. Si on ne suit pas les directives, ça ne marche pas. Ce n'est pas la peine de comprendre le comment et le pourquoi pour que ça marche. Pour les mitzvot de la Torah, nos sages nous ont enseigné, dévoilé, qu'est-ce qui se passe. Alors si on a l'émouna et on suit les directives, eh bien ça va marcher. Dans tous les cas, on va accéder à quelque chose. Lorsque quelqu'un y fait la tfila, il fait la mitzvah, quelqu'un y met les tfilin. Alors même s'il ne comprend rien aux tfilin, eh bien c'est sûr que les tfilin ont eu un impact sur lui. Bon, il y a un nouveau livre qui est sorti qui s'appelle « Sefer Amahapar » d'un certain Rav Zamir Cohen, quelqu'un qui est très versé en Torah et aussi en science. Alors bon, il avait amené là-bas la chose suivante. Il a fait une fois une conférence dans un hôtel à Be'er Sheva. Et il a parlé là-bas des tfilin. La mise des tfilin, l'importance des tfilin. Top. Et bon, il avait amené ce que dit le Rambam, quand on met les tfilin, alors on craint Dieu, on est modeste, etc. Et puis l'influence que les tfilin a sur l'être humain, que ça sanctifie, etc., etc. Top. Il y avait dans la salle un grand physicien qui lui s'intéresse et spécialiste ce qui s'appelle en ivrite la hila. Ça s'appelle une aura, je crois en français, n'est-ce pas? C'est une certaine, on va dire, énergie que chacun de nous émet autour de lui et qu'on peut, n'est-ce pas, détecter de nos jours avec certains appareils photo sophistiqués. Ça s'appelle une certaine aura. Et puis cet homme-là, c'est un spécialiste en la matière. Et puis bon, il a mis au point une échelle de différentes auras. Et puis il arrive, n'est-ce pas, à photographier cette aura et on voit des couleurs différentes qui correspondent plus ou moins aux couleurs de l'arc-en-ciel. Bon. Et puis là aussi, avec le temps, il arrive à conclure que la couleur de cette aura, pour chaque personne, eh bien, va nous dévoiler quel est plus ou moins le niveau moral et spirituel de telle personne. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte, pas sur des dizaines, des centaines de cas, que des gens, on va dire, qui sont, par exemple, des gens qui sont grossiers, qui ont un niveau intellectuel et moral très très bas, eh bien, leur aura, elle est de telle couleur en général. Les gens qui sont plus intellectuels, qui ont une morale plus raffinée, etc., eh bien, ils ont une aura de cette couleur, etc. Puis, il y avait des niveaux différents. Donc, alors, cet homme-là, lorsqu'il a entendu ce Rav Zamir Cohen faire cette conférence sur les tfilin, il a dit, oh, bon, on va essayer, on va voir ce que les tfilin vont donner par rapport à la aura. Alors il a pris dans la salle, tout de suite après cette conférence, il a pris 11 personnes. Et puis des personnes qui sont loin de la Torah. Donc des personnes, n'est-ce pas, qui ne mettaient jamais, ou alors très rarement, leur paire de tefillin, uniquement pour le bar mitzvah du fils ou du neveu, etc. Et il a pris ces personnes-là, et il les a photographiées, enfin il a photographié leur aura avant la mise des tefillin, ensuite leur a fait mettre à tous les tefillin, et de nouveau a pris ces photos. Eh bien, chez les 11 personnes, dans tous les cas, la aura avait changé. La couleur avait changé. Et dans tous les cas, c'était une couleur qui montrait, qui désignait une élévation d'un niveau spirituel. Et je répète, ce sont des gens qui, a priori, ne comprenaient rien aux tfilines, des gens loin de la Torah. C'est-à-dire que les tfilines, quand tu les mets, même quelqu'un qui n'est pas croyant, qui ne sait pas ce que c'est les tfilines, tout de suite, il est transformé par cette mitzvah, cette mise de tfilines. Mais il est sûr et certain que plus tu comprends, plus tu sais, tu vas être influencé, tu vas être transformé. Alors pas aussi pour Pourim, bien qu'on ne sait pas comment ça marche, mais tout d'abord ça marche. Ça marche, il faut avoir cette émouna. Dans ce écrit, plus tu as la émouna, plus en effet tu peux exploiter cette influence divine, spirituelle, qui va t'intégrer, qui va te transformer. Évidemment, c'est ce qu'on écrit maintenant, c'est que plus on va étudier, plus on va comprendre, plus on va se préparer à la fête de Pourim, plus on pourra exploiter cette influence. Bon, les masses, c'est concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'il ne faut pas s'intéresser au halakhot d'une part et au moussar à la gata de l'autre part. C'est une règle générale dans toutes les mitzvot de la Torah. Lorsqu'on ressent qu'il y a une mitzvah, bon, on veut bien y croire, mais ça ne nous dit pas. Ça ne nous dit pas, on n'est pas motivé, on ne comprend pas comment ça marche, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, ça ne nous dit rien, on a l'impression que c'est le contraire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut traiter la question, il faut s'intéresser au sujet. Comme dit la Gemara, Gadol Talmud Shemevi Lidei Maaseh. Lorsque tu t'intéresses, tu es affairé, tu lis des textes, tu écoutes des cours sur le texte, sur la question, le sujet, automatiquement, tu vas devenir un homme passionné, motivé de ce sujet. Nous disent nos sages, « Achre ha-ma'asim nimshachim alevavot ». Eh bien, ce que tu fais, ça va avoir un impact extraordinaire sur toi, que tu le veuilles ou non. Si tu prends quelqu'un, un homme, qui est très cruel, et tu vas lui... Son travail pour gagner son argent, c'est de passer la pommade sur des gens qui ont mal au dos, par exemple, qui ont des boutons, etc. Il le fera pendant quelques mois, quelques années. Cet homme-là, il sera transformé. Puisqu'il a caressé les gens, il va devenir un homme qui va être plus délicat. Si au contraire, pour un homme qui est gentil et délicat, son travail, c'est de tabasser, de frapper certains prisonniers, et bien cet homme-là, il va être transformé. Qu'il le veuille ou non, ce que tu fais, ça te transforme. Par aussi, lorsque tu es affairé à un texte de Torah qui te parle du Shabbat, qui te parle de Purim, qui te parle de la Tfila, eh bien, tu vas être transformé, ça va te donner une autre vision des choses. Et je répète, c'est conseillé de s'intéresser à deux domaines différents. Et la halachot. La halachot, c'est la structure générale de la mitzvah. Et ensuite, ce qui s'appelle les commentaires. Les commentaires, les pirushim, ce qu'on appelle la gata, les midrashim, le moussar, pour essayer de comprendre le côté intérieur des choses. En général, il faut mêler les deux ensemble pour arriver à une compréhension complète de la chose. Mais même s'affairer à un seul domaine, uniquement les halachot, ou uniquement le côté midrashim, eh bien ça va déjà nous donner une autre idée de cette question. Donc c'est pourquoi c'est important de se préparer à n'importe quelle fête, n'importe quelle mitzvah. Alors pour Pessah, c'est qu'on doit se préparer un mois à l'avance. Pour Purim, bon, il y en a qui disent que c'est un mois, mais la halacha en tient qu'il faut se préparer deux semaines à l'avance, à partir du début de mois de Hadar. Alors encore un mot là-dessus. En préparation, ça se dit en hébreu, hachana. Hachana, c'est préparation. Hachana, c'est la même gematria, la même valeur numérique que le mot yesod. Yesod, c'est la base. C'est-à-dire que la base de toute chose, c'est la préparation. Lorsque tu es prêt, tu pourras automatiquement utiliser, exploiter la chose de façon la plus parfaite possible. Hachana, gematria, yesod. Une des préparations essentielles à la fête de Purim. Surtout que c'est un sujet qui nous est très, très important, très primordial de nos jours. Alors, ça s'appelle, un mot bien connu, ça s'appelle la Emouna. La Emouna, c'est la foi en Hachem. Bon, la Emouna, Baruch Hachem, nous l'avons tous, la question n'est pas là, en général, Baruch Hachem. Mais ça dépend là aussi à quel niveau. La Emouna, ça peut se travailler dans différents niveaux, différents domaines. C'est-à-dire, on a l'émouna que Hachem a créé le monde, qu'Hachem existe, Hachem est unique, etc. Mais il y a aussi une émouna de prendre conscience, de savoir, de se rendre compte que Hachem dirige le monde. Hachem dirige le monde, ça veut dire que, en effet, tout ce qui se passe, eh bien, c'est dirigé par Hachem, d'une part. D'autre part, c'est pour notre bien. Même ce qui paraît mauvais, dérangeant, perturbant, c'est pour notre bien. Dit l'Agmara, de nos jours, eh bien, pour les mauvaises nouvelles, on dit Dayan Emet, alors que, à la fin des temps, on dira, même pour les mauvaises nouvelles, à Tova Metiv, c'est-à-dire que, même les mauvaises nouvelles, on va se rendre compte que tout était pour le bien. Bon, on va essayer d'expliquer ça. Alors, bon, on voit ça à plusieurs phases différentes dans la fête de Purim, dans l'histoire de Mordechai Esther, mais on va citer un cas important, c'est lorsque Esther a été prise par le roi Achashverosh. C'est-à-dire qu'a priori, n'est-ce pas a priori, non, on n'imagine pas ce que c'est, mais Esther, qui était une des sept prophétesses d'Am Israël. Le peuple d'Israël a eu droit à 48 prophètes et à 7 femmes prophétesses. Esther était l'une d'elles. Esther était une des femmes les plus tzadikotes de l'univers. Et cette jeune fille, Esther, eh bien, elle a été prise par le roi Achashverosh, un homme qui était racha, évidemment loin de tout ce qui était Torah, loin de tout ce qui était morale, etc. Et elle était comme prisonnière chez ce roi. Alors nous, on n'arrive pas à s'imaginer quelle souffrance, quel guéinom ça peut vouloir désigner pour elle, ainsi que pour toute sa famille. Mordechai, eh bien, lui aussi était très souffrant, d'ailleurs il ne venait pas tous les jours dans la cour du palais royal pour demander comment allait Esther, tellement il était inquiet, angoissé, soucieux de son sort. Alors, bon, sans trop entrer dans les détails, mais de façon générale, en fin de compte, il s'est avéré que c'était pour le bien d'Am Israël. Le fait que Esther a a été prise par le roi en tant que reine, c'est ce qui a pu amener la délivrance, la Yeshua, la Geoula pour Am Israël. Bon, il est vrai que Hachem aurait pu le faire les choses de façon différente. Bon, mais on ne sait pas toujours comment et pourquoi Hachem choisit certains chemins. Ce qu'on peut, ce qu'on doit se rendre compte, c'est que ce chemin qui te paraît biscornu, c'est un labyrinthe, c'est une impasse, sache qu'en fin de compte, tôt ou tard, c'est pour ton bien. Esther a été prise par le roi Achashverosh, eh bien, au total, c'est pour le bien. Mis à part la délivrance, qui est, bon, extraordinaire, mais c'est, on va dire, dans un domaine qui est plutôt fini, limité, matériel, encore plus que cela, les Bnei Israël ont eu droit, grâce à cela, à la fête de Pourim. Une fête de Pourim, comme on l'explique auparavant, qui chaque année nous élève à des niveaux spirituels gigantesques et géants. Ce n'est pas uniquement une journée spirituelle, mais c'est une journée qui va nous transformer toute notre année. Comme on comprend bien que le jour de Kippour peut te donner une année différente. Quand tu passes un bon Kippour, ton année c'est une autre année. Quand le Kippour il est raté, il est mauvais, c'est une autre année, chas v'shalom. Pareil aussi encore plus pour Pourim. Si on passe une bonne fête de Pourim, n'est-ce pas, du tonnerre, vraiment s'éclater spirituellement, s'élever dans la tefila, dans les mitzvot, la Torah de Pourim, eh bien notre année peut être une année différente. Cette fête nous a été donnée grâce au malheur que Achashverosh et Aman nous ont décrété. Grâce au fait que Esther a été prise par le roi Achashverosh. Non seulement cela, cela a amené à une tshuva extraordinaire de tout Am Israël à cette époque, ce qui a amené de nouveau à une Kabbalat HaTorah Mechadash, comme dit la Gemara, Kimu veKiblu, Kiblu Mashé, Kimu Mashé Kiblu Kva. Donc en Israël, bien qu'ils ont accepté la Torah à Shavuot, ils l'ont accepté encore une fois à Pourim, une fois qu'ils ont été délivrés, sauvés de Haman et de Achashverosh. Alors bon, là aussi, on va dire juste un petit mot là-dessus, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Lorsqu'on parle de Matan Torah, Kabbalat HaTorah, eh bien, c'est un des deux événements les plus importants de notre histoire. Sachez, n'est-ce pas, disent nos sages, qu'il y a deux événements qui sont les plus importants, c'est la sortie d'Égypte avec la traversée de la mer Rouge, ainsi que Matan Torah, le don de la Torah. Ce sont les deux événements les plus importants, les plus bouleversants, les plus vraiment extraordinaires que nous avons vécu depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la venue du Mashiach. Et à Pourim, lorsque les Israël ont reçu la Torah, ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une image, ce n'est pas une illustration, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y avait encore une fois une Kabbalat HaTorah, Mechadash, Mamash, Kom Matan Torah. C'est-à-dire que c'est aussi écrit que Pourim est aussi une fête qui comprend la fête de Shavuot. Parce que c'est un Matan Torah, on doit accepter la Torah encore une fois ce jour-là. Et ça, n'est-ce pas, c'est arrivé grâce au fait que Esther a été prise par Achashverosh à cause de ce décret de Haman et de Achashverosh. Donc, ça doit nous remplir de Emouna, que tout ce qui se passe, en fin de compte, c'est pour notre bien. Bon, on va ramener un autre exemple. Le Midrash sur Parashat Vayeshev Miketz nous dit que Yosef HaTzadik, eh bien, était à un niveau spirituel si élevé qu'il a vraiment compris que tout ce que Hachem faisait avec lui était pour son bien. Alors c'est inouï, inimaginable. Imaginez un peu, un jeune garçon de 17 ans, 18 ans, eh bien, qui a été jeté, éjecté dans une prison et resté là-bas pendant 12 années d'affilée, de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 30 ans. En signalant, entre parenthèses, que les prisons de l'époque n'étaient pas comme celles de nos jours. De nos jours, c'est presque des hôtels. Mais à l'époque, c'était quoi? C'était un simple trou, une caverne, dans laquelle il n'y avait ni eau courante, ni toilette, ni rien du tout. C'est invivable. Pendant 12 années, on peut dire pendant les années peut-être les plus chères, les plus importantes, lorsque un homme est en train de se bâtir, de se forger la personnalité, n'importe quel jeune homme normal, eh bien, devrait perdre la raison, devrait être empli d'une déprime, d'une tristesse, d'une mélancolie inouïe, infinie, vraiment inguérissable. Et surtout que, a priori, selon les circonstances et les données, Yosef n'avait aucune chance de sortir de là-bas toute sa vie. Il est jeté en Égypte, un pays qu'il ne connaît pas, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de télégramme, pas de lettres, il est coupé du monde entier, dans un pays inconnu, a priori c'était prison à vie, il n'avait aucune chance de sortir. Yosef, comment est-ce qu'il a pu surmonter tout cela? Dit le Midrash qu'il était conscient, persuadé, que tout ce qu'Hachem lui a fait, c'est pour son bien. Tout d'abord, ça c'est aussi un niveau très élevé, bien que ses frères l'ont vendu, bien qu'il ait été vendu plusieurs fois, n'est-ce pas? Il était convaincu que c'est Hachem qui l'a envoyé ici pour une mission bien spécifique, bien spéciale. Dit le Midrash, Yosef tous les jours se mettait à chanter et à danser en remerciant Hachem, bien qu'il ne comprenait rien du tout. Et puis l'impasse était totale. Et puis, ce n'est pas que pendant quelques semaines, il se met à chanter, puis voit que ça ne marche pas, et donc il perd espoir, il est brisé. Non, il continue pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et puis aucun espoir. Après 10 ans, il y a un petit espoir, n'est-ce pas? L'histoire de Sarah Mashkim et Sarah Ofim, lui, il leur trouve la solution à leur rêve, et eux vont être délivrés, et là, ils demandent de faire appel à Pharaon pour essayer de sortir de là-bas. Évidemment, le Sarah Mashkim a oublié, et donc quelques semaines après, Yosef de nouveau était désespéré, donc il n'y avait vraiment aucun espoir. Et malgré cela, après 2 ans de prison, eh bien Yosef, en sortant de là-bas, est resté un homme intelligent, lucide, à un niveau très élevé, jusqu'à ce qu'il a pu, pas tout d'un coup, être presque le vice-roi de toute l'Égypte. L'Égypte qui était à l'époque la puissance mondiale numéro 1. Comment est-ce que Yosef est arrivé à cela? Une émouna solide que tout ce qui lui est arrivé, c'est pour son bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Hachem, bien souvent, nous amène des épreuves difficiles. Et nous, on a l'impression que cette épreuve-là, enfin, c'est un obstacle, c'est un problème. Ça nous dérange. C'est une impasse. Parce que ça m'empêche d'arriver au but que je me suis fixé. Mais là, c'est un tort. Ce que nous dit la Torah. D'ailleurs, c'est que apparemment que Yosef, n'est-ce pas Yosef, est arrivé à diriger l'Égypte, eh bien, grâce à cette épreuve de tant d'années de prison. Il a dit à ses frères, ne soyez pas souffrants et perturbés parce que vous m'avez vendu ici, parce que, au contraire, comme j'ai vécu tant d'années en Égypte, c'est là où j'ai pu atteindre mon niveau spirituel, un niveau de tzidkout sans pareil, Yosef HaTzadik, parce que j'ai été jeté dans le pays le plus impur, qui était vraiment plein de yetzarara, plein de tentations et de plaisirs dans tous les domaines, et j'ai pu surmonter tout cela. C'est grâce à ça que j'ai forgé ma personnalité et que j'ai pu maintenant devenir, n'est-ce pas, le dirigeant d'Égypte. Et grâce à ça, les Bnei Israël ont pu venir en Égypte pour préparer l'exil de Yaakov et de ses enfants. C'est-à-dire que, bien souvent, la difficulté, l'épreuve, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un obstacle. C'est au contraire pour t'aider à surmonter une telle situation qui t'attend dans quelques mois, quelques années. Je raconte là-dessus une petite histoire réelle qui s'est passée il y a quelques dizaines d'années. C'était en Iran. En Iran, il y avait une vague d'antisémitisme qui s'est tout d'un coup éveillée, et puis un homme a été mis à mort tout d'un coup. Sa femme, la pauvre femme veuve, avec 5 enfants, et elle s'est rendue compte que si elle restait en Iran, eh bien elle allait être elle et ses enfants, être liquidés tout de suite. Elle s'est organisée pour voyager directement en Israël. Il y avait là-bas quelqu'un qui était connu, un des Iraniens, un des goyim iraniens, qui amenait les gens d'Iran en Israël en 1 ou 2 semaines, à dos de chameau ou dos d'âne. Vraiment un voyage terrible. Alors elle a contacté, et encore la nuit même, ils sont partis, ils ont fait ce voyage. Avec 5 enfants en bas âge, et puis elle est brisée évidemment par la mort de son mari, et ils font le voyage. Et puis c'est un voyage vraiment terrible, terrible, dans des conditions vraiment inimaginables, sans provision presque, et puis sans presque dormir, pas, sans se reposer jour et nuit. Et puis cet homme-là qui les conduisait, c'est un homme qui était brut et cruel et très dur. Il ne les laissait pas se reposer, il les obligeait à marcher. Elle raconte qu'une fois, ils sont arrivés en face d'un abîme. Il y avait un petit pont, une petite passerelle en bois qui était branlante et qui n'avait pas de barrière droite et à gauche. Et lorsqu'elle a vu ça, elle a dit, j'y vais pas, je rebrousse chemin. Alors il a sorti un revolver et il a menacé de mort. Il a dit, vous passez ici, n'est-ce pas, ou alors c'est terminé, vous et vos enfants. Et puis ils sont passés vraiment, vraiment en risquant leur vie, etc. Lorsqu'ils sont arrivés à destination en Israël, cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a embrassé les enfants, il a dit à la dame, sachez que moi aussi je suis juif. Je m'excuse, n'est-ce pas, mais j'ai fait cela, je me suis conduit d'une telle façon envers vous, parce que sinon jamais vous serez arrivés ici. C'est tellement difficile qu'il fallait que je vous oblige, que je vous menace de mort plusieurs fois pour vous obliger à arriver ici pour vous sauver la vie. Excusez-moi, je ne vais pas votre bien. Maintenant, il a dit, je me dépêche d'aller en Iran encore une fois pour amener encore une autre famille en Israël. Il leur dit au revoir et est parti. Alors, c'est une vraie histoire, mais pour nous, c'est un machal pour nous dire, des fois, Hachem nous fait pareil. Nous amène dans des situations difficiles, insurmontable, nous oblige à faire cela et cela pendant quelques mois, quelques années. Des fois, n'est-ce pas, c'est quelqu'un, c'est un patron, c'est quelqu'un de la famille, c'est un voisin, c'est un camarade qui te dérange, qui te perturbe, qui t'oblige, etc., qui te fait des misères, qui t'insulte, qui te méprise, qui te jette de ton travail, 36 problèmes, et tu ne comprends pas que c'est pour ton bien. Des fois, on voit la Yeshua après quelques mois, quelques années. Des fois, même s'il n'y a pas de délivrance, eh bien, cette épreuve, ce problème, a réussi à te forger la personnalité que Hachem voulait te donner pour que tu puisses ensuite, 5 années plus tard, 10 ans plus tard, surmonter telle situation. Par exemple, Hachem savait que tu dois diriger telle ou telle boîte. Tu dois pas t'occuper de telle ou telle famille. Tu dois, n'est-ce pas, éduquer tels enfants, et Hachem passera que tu auras beaucoup d'enfants qui auront certains problèmes. Hachem voulait te préparer auparavant. Il t'a amené plusieurs problèmes dans le travail, dans les finances, dans la santé, d'autres domaines, ce qui t'a poussé par exemple à faire la tefila, ce qui t'a poussé à être un homme qui soit plus costaud, un homme qui réfléchit plus, un homme qui sait gérer des situations. Et ce qu'il y a, c'est que nous, au lieu de remercier Hachem, on se met à se plaindre. C'est ce que dit la Megillat Esther. C'est que Esther Amalka, d'ailleurs le Midrash le dit, c'est que Esther, elle s'en rendait compte. Elle n'était pas démoralisée. Elle remercie Hachem.